Nick Dune, 4 jours après. Elle se tenait là, dans la lueur orange des réverbères, dans une mince robe bain de soleil, les cheveux ondulés par l'humidité. Andy. Elle s'est précipitée à l'intérieur, les bras écartés pour m'étreindre. Et j'ai sifflé « Attends, attends !» et refermé la porte juste avant qu'elle se blottisse contre moi. Elle a pressé sa joue contre mon torse et j'ai mis la main sur son dos nu et fermé les yeux. Je ressentais un mélange troublant de soulagement et d'horreur. Comme quand on cesse enfin de se gratter et qu'on s'aperçoit que c'est parce qu'on a percé un trou dans sa peau. J'ai une maîtresse. Maintenant, c'est le moment où je dois vous dire que j'ai une maîtresse. Et vous allez cesser de me trouver sympa. Si toutefois vous me trouviez sympa. J'ai une jeune maîtresse. Très jeune, très jolie. Et elle s'appelle Andy. Je sais, c'est mal.
Putain, chérie, pourquoi tu m'as pas appelé ?
Je sais, mon cœur, je sais. C'est que tu peux pas imaginer. C'est un vrai cauchemar. Comment tu m'as trouvé ? Elle me tenait toujours contre elle.
Il n'y avait pas de lumière chez toi, alors je me suis dit que j'allais essayer chez Go.
Andy connaissait mes habitudes. Elle connaissait mes habitats. Ça fait un moment qu'on est ensemble. J'ai une très jeune et jolie maîtresse, et ça fait un moment qu'on est ensemble.
Je m'inquiétais pour toi, Nick, comme une folle. J'étais chez Maddy, et genre, la télé était allumée, comme ça, et tout à coup, à la télé, je vois genre ce mec qui te ressemble, qui parle de la disparition de sa femme. Et là, je comprends que c'est toi. T'imagines un peu le flip que je me suis fait ? Et t'as même pas essayé de me joindre ? Je t'ai appelé. Ne dis rien, ne bouge pas, ne dis rien avant qu'on ait parlé tous les deux. C'est un ordre, ça. C'est pas comme si t'avais cherché à me joindre.
J'ai quasiment jamais une minute à moi. Et il y a tout le temps du monde avec moi, les parents d'Amy, Go, les flics. J'ai respiré ses cheveux.
Amy est partie comme ça ?
Elle est partie comme ça. Je me suis arraché à son étreinte, me suis assis sur le canapé et elle s'est assise à côté de moi. Sa jambe pressée contre la mienne, son bras effleurant le mien. Enfin, on dirait que quelqu'un l'a enlevé plutôt.
Nick, ça va ?
Ses cheveux brun chocolat tombaient en vagues sur son menton, sa clavicule, ses seins. Et je regardais une mèche qui tremblotait sous l'effet de son souffle. Non, pas vraiment. Je lui ai fait chute et j'ai montré le couloir. Ma sœur. Nous sommes restés côte à côte, silencieux. Les images dansaient toujours à la télévision. J'ai senti sa main se glisser dans la mienne. Elle s'est appuyée contre moi comme si nous nous installions pour une soirée DVD, comme un couple paresseux et sans souci. Puis elle a attiré mon visage vers elle et elle m'a embrassé.
« Andy, non. »
J'ai chuchoté.
« Si, j'ai besoin de toi. »
Elle m'a embrassé de nouveau et s'est hissée à califourchon sur mes genoux. Sa robe de coton a glissé par-dessus ses genoux, une de ses sandales est tombée par terre.
« Nick, je me suis fait tellement de soucis pour toi. J'ai besoin de sentir tes mains sur moi. Je n'arrive pas à penser à autre chose. J'ai peur. »
Andy était une fille tactile. Et ce n'est pas une façon codée de dire qu'elle ne pensait qu'au sexe. Elle aimait me prendre dans ses bras, me toucher, promener ses doigts dans mes cheveux ou le long de mon dos pour me gratter affectueusement. Le fait de toucher la rassurait et la réconfortait. Oui, mais bon, elle aimait aussi le sexe. D'un petit coup sec, elle a enlevé le haut de sa robe et placé mes mains sur ses seins. Ma lubricité de bon chien s'est réveillée. « J'ai envie de te baiser. » J'ai failli le dire tout haut.
« Tu es chaleureux. »
a soufflé ma femme à mon oreille. Je me suis écarté en sursaut.
« Nick ?»
Sa lèvre inférieure était trempée par ma salive.
« Quoi ? Il y a un problème avec nous ? C'est à cause d'Amy ?»
Andy m'avait toujours semblé jeune. Elle avait 23 ans. Bien sûr qu'elle me semblait jeune. Mais tout à coup, j'ai réalisé à quel point elle était grotesquement jeune. D'une jeunesse irresponsable, désastreuse, dévastatrice. Entendre le nom de ma femme de sa bouche me secouait toujours un peu. Elle le prononçait souvent. Elle aimait parler d'Amy, comme si Amy était l'héroïne d'un soap-opéra nocturne. Andy ne faisait jamais d'Amy une ennemie. Elle en faisait un personnage. Elle posait des questions tout le temps sur notre vie commune, sur Amy,
Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez à New York, genre le week-end, vous faisiez quoi ?
Andy était resté bouche bée un jour quand je lui avais dit qu'on était allé à l'opéra.
Vous êtes allé à l'opéra ? Qu'est-ce qu'elle portait ? Une robe longue ? Avec un châle ou une fourrure ? Et les bijoux ? Et la coiffure ?
Et aussi, ils étaient comment ses amis à Amy ? De quoi on parlait ?
Et Amy, elle était comment, tu vois, au fond ? Elle est comme la fille des bouquins ? Parfaite ?
C'était l'histoire favorite d'Andy pour s'endormir. Amy.
Ma sœur est dans la pièce d'à côté, mon cœur. Tu ne devrais même pas être là. Dieu sait que j'ai envie d'être avec toi, mais tu n'aurais vraiment pas dû venir, ma chérie, tant qu'on ne connaît pas le fond du problème. Tu es brillant, tu es spirituel, tu es chaleureux. Maintenant, embrasse-moi.
Elle est restée au-dessus de moi, les seins nus, les tétons durcis par le souffle de la clim.
Chérie, le fond du problème pour l'instant, c'est que j'ai besoin d'être sûr que tout va bien entre nous. C'est tout ce que je demande.
Elle s'est pressée contre moi, chaude et douce.
C'est tout ce que je demande, je t'en prie, Nick, je perds les pédales. Je te connais, je sais que t'as pas envie de parler pour l'instant, et c'est pas grave. Mais j'ai besoin que tu sois... avec moi.
Et j'avais envie de l'embrasser. Comme je l'avais embrassé la toute première fois. Nos dents s'étaient cognées, son visage s'était incliné vers le mien, ses cheveux chatouillaient mes bras. C'était un baiser mouillé, avec la langue. Et je ne pensais à rien d'autre qu'au baiser. Car ça aurait été dangereux de penser à quoi que ce soit d'autre qu'à cette sensation incroyable. La seule chose qui me retenait de l'attirer dans la chambre, ce n'était pas que c'était mal, à divers degrés, c'était mal depuis le début, mais que maintenant c'était dangereux pour de bon. Et aussi, il y avait Amy. Finalement, à présent, il y avait Amy. Cette voix qui s'était installée dans mon oreille pendant la moitié d'une décennie. La voix de ma femme. Sauf qu'à l'heure actuelle, elle n'était pas pleine de reproches, mais de tendresse, de nouveau. Ça me rendait dingue que trois petits mots de ma femme puissent me mettre dans cet état et me rendre soudain mou et sentimental. Je n'avais absolument aucun droit d'être sentimental. Andy s'est pelotonné contre moi et je me suis demandé si la police avait placé la maison de Gaulle sous surveillance, si je devais m'attendre à ce qu'on cogne à la porte. J'ai une maîtresse, très jeune et très jolie. Ma mère nous disait toujours, « Si vous vous apprêtez à faire quelque chose et que vous voulez savoir si c'est une erreur, imaginez l'effet que ça ferait si on l'annonçait noir sur blanc dans le journal. » Nick Dune, ancien rédacteur de magazine, toujours blessé dans sa fierté par son licenciement en 2010, a accepté de donner un cours de journalisme à la faculté de Carthage. Cet homme de 35 ans n'a pas perdu de temps et s'est lancé dans une aventure torride avec une de ses étudiantes âgée de 23 ans. J'étais l'incarnation de la pire terreur de tout écrivain. Un cliché. Et à présent, permettez-moi d'enfiler d'autres clichés pour votre amusement. Ça s'est fait peu à peu. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Je me suis engagé plus que je n'aurais cru. Mais c'était plus qu'une simple passade. C'était plus qu'une tentative de regonfler mon ego. J'aime Andy. Je le jure. Le cours que je donnais, comment commencer une carrière de rédacteur de magazine, accueillait 14 étudiantes de niveaux différents. Que des filles. J'aurais bien dit femmes, mais je pense que « fille » est le terme qui convient, factuellement. Elles voulaient toutes travailler dans des magazines. Ce n'étaient pas des filles pour les quotidiens tachés d'encre, c'était des filles pour le papier glacé. Elles avaient vu le film. Elles s'imaginaient en train de courir à droite à gauche dans Manhattan, un latté dans une main, un portable dans l'autre, cassant avec une charmante maladresse le talon de leurs chaussures de créateur en arrêtant un taxi et tombant dans les bras de leur âme sœur, un garçon charmant, désarmant, avec une mèche engageante. Elles ne se doutaient pas une minute de l'inconscience, de l'ignorance que trahissait leur spécialisation. J'avais prévu de leur annoncer la nouvelle en me servant de mon licenciement en guise de récit édifiant. Même si je ne tenais pas le moins du monde à passer pour une figure tragique, je comptais raconter l'histoire sur un ton plaisant, plein de nonchalance, pas de quoi en faire tout un plat. Ça me laissait du temps pour bosser sur mon roman. Mais j'ai passé le premier cours à répondre à un si grand nombre de questions émues, et je suis devenu un tel poseur prétentieux, un tel minable en mal de reconnaissance, que je n'ai pas pu me résoudre à dire la vérité. la convocation dans le bureau du rédacteur en chef lors de la seconde vague de licenciements, la traversée maudite de la longue rangée de bureaux dans l'open space, tous les yeux rivés sur moi, le condamné à mort, tandis que j'espérais encore qu'on allait m'annoncer autre chose, que le magazine avait vraiment besoin de moi, plus que jamais. Oui, un speech d'encouragement, un speech pour rappeler qu'on avait besoin de mettre les bouchées doubles, tous. Mais non. Mon patron avait seulement dit « Je pense que vous savez malheureusement pourquoi je vous ai convoqué ici », en se frottant les yeux derrière ses lunettes pour montrer sa lassitude et son abattement. Je voulais avoir l'impression d'être un winner, le top du cool. Aussi n'ai-je pas parlé à mes étudiantes des raisons de mon congé. Je leur ai raconté qu'une maladie dans notre famille exigeait ma présence ici. Et c'était vrai. Oui, me suis-je dit. Entièrement vrai. Et tout à fait héroïque. Et la jolie Andy, avec ses taches de rousseur, était assise à quelques dizaines de centimètres de moi, avec ses grands yeux bleus sous ses boucles chocolat, ses lèvres pulpeuses à peine entrouvertes, scandaleusement charnues, ses seins d'origine, ses bras, ses jambes fines et déliées. Une vraie bombe sexuelle, débarquée d'un autre monde, il faut bien le dire. Aussi différente que possible de mon épouse élégante et aristocratique. Et Andy, qui dégageait un mélange de chaleur corporelle et de lavande, prenait des notes sur son portable et posait des questions d'une voix un peu rauque. Des questions comme « Comment vous débrouillez-vous pour gagner la confiance d'une source, pour convaincre les gens de se confier à vous ?» Et je me suis dit sur le champ « Elle débarque d'où, cette fille, putain ? C'est une blague ?» Vous vous demandez pourquoi j'avais été fidèle à Amy pendant 7 ans. J'étais le mec qui quittait le bar plus tôt si une femme flirtait un peu trop, si le contact de sa main était trop agréable. Je n'étais pas un mari infidèle. Je n'aimais pas les maris infidèles. Je les trouvais malhonnêtes, irrespectueux, vils, égoïstes. Je n'avais jamais succombé. Mais c'était l'époque où j'étais heureux. Je déteste me dire que la réponse est si facile que ça, mais j'avais été heureux toute ma vie, et là, je ne l'étais plus. Et Andy était là. Elle s'attardait après les cours, me posait des questions qu'Amy ne s'était jamais souciée de me poser, en tout cas pas récemment. Elle me donnait l'impression d'être un homme de valeur, pas un crétin qui a perdu son boulot, un naze qui a oublié de baisser la cuvette des toilettes. Un gaffeur qui n'arrive jamais à faire les choses tout à fait correctement, quelles qu'elles soient. Un jour, Andy m'a apporté une pomme. Une Red Delicious. Ce serait le titre du récit de notre aventure si je devais l'écrire. Elle m'a demandé de jeter un coup d'œil au premier jet de son article. C'était le portrait d'une stripteaseuse d'un club de Saint-Louis. Ça ressemblait à un récit érotique du forum de Penthouse. Et Andy s'est mise à manger ma pomme pendant que je le lisais, appuyé sur mon épaule, et le jus lui restait bizarrement suspendu aux lèvres. Et je me suis dit « Putain de merde, cette fille est en train d'essayer de me séduire. » Stupidement choqué, tel un Benjamin Braddock vieillissant. Et ça a marché. J'ai commencé à voir en Andy une échappatoire, une opportunité, une possibilité. Quand je rentrais, Amy était recroquevillée sur le canapé. Amy regardait fixement le mur, silencieuse. Elle n'entamait jamais la conversation avec moi. Elle attendait, systématiquement, comme s'il s'agissait perpétuellement de briser la glace, dans un constant casse-tête mental. Qu'est-ce qui va faire plaisir à Amy aujourd'hui ? Et je me disais, Andy ne ferait jamais ça. Comme si je connaissais Andy. Cette blague ferait rire Andy. Cette histoire plairait à Andy. Andy était une jeune Irlandaise de chez moi, une jolie fille, gentille, gironde, sans prétention et gaie. Andy était assise au premier rang de mon cours et elle avait l'air douce, elle avait l'air intéressée. Quand je pensais à Andy, mon estomac ne se serrait pas de la même façon que quand je pensais à ma femme. La terreur constante de retourner chez moi où je n'étais pas le bienvenu. J'ai commencé à imaginer comment ça pourrait se produire. J'ai commencé à penser constamment au contact de sa peau. Oui, ça s'est passé comme ça, comme dans les paroles d'un mauvais tube des années 1980. Je pensais constamment au contact de sa peau. je pensais constamment au contact d'une peau en général, car ma femme évitait tout contact physique avec moi. Chez nous, elle filait devant moi avec la vivacité d'un poisson, s'écartant de façon que je ne puisse même pas l'effleurer dans la cuisine, dans l'escalier. Nous regardions la télé en silence, assis chacun sur notre coussin du canapé, et les deux coussins étaient aussi séparés que deux canots de sauvetage. Au lit, elle me tournait le dos et poussait les couvertures et les draps entre nous. Une nuit, je me suis réveillé et, sachant qu'elle dormait, j'ai fait glisser imperceptiblement la bretelle de son dos nu et j'ai posé la joue et la main contre son épaule nue. Je n'ai pas pu me rendormir cette nuit-là tant je me dégoûtais. Je me suis levé et me suis masturbé dans la douche en pensant à Amy, au regard lubrique qu'elle me jetait autrefois, ses yeux de lune sous ses lourdes paupières qui me prenaient tout entier, qui me donnaient l'impression d'être vu. Quand j'ai eu fini, je me suis assis dans la baignoire et j'ai contemplé la bonde à travers les gouttes d'eau. Mon pénis gisait, pathétique, le long de ma cuisse gauche, tel un petit animal échoué sur le rivage. Assis au fond de la baignoire, humilié, j'ai essayé de retenir mes larmes. Et c'est arrivé. Lors d'une étrange, d'une soudaine tempête de neige au début du mois d'avril. Pas avril de cette année, avril de l'an dernier. Je tenais le bar tout seul parce que Go passait la soirée avec maman. On se relayait pour rester à la maison, regarder des conneries à la télé avec notre mère au lieu d'aller au boulot. Maman déclinait vite. Elle ne tiendrait pas l'année, loin de là. En cet instant précis, à vrai dire, je me sentais plutôt bien. Maman et Go étaient bien au chaud à la maison, en train de regarder un film de plage avec Annette Funicello, et la soirée au bar avait été animée. Une de ces soirées où tout le monde semblait venir après avoir passé une bonne journée. Les jolies filles étaient sympas avec les mecs moches. Les gens payaient des tournées à des inconnus pour le plaisir. C'était festif. Puis la fin de la soirée était arrivée. L'heure de la fermeture, tout le monde dehors. Je m'apprêtais à verrouiller la porte lorsque Andy l'avait ouverte à la volée et était entré, me heurtant presque, et j'avais senti la douceur de la bière légère dans son haleine, l'odeur de feu de bois dans ses cheveux. J'étais resté interdit pendant cet instant troublant où on tâche de situer quelqu'un qu'on a vu seulement dans un unique cadre et qu'on doit placer dans un nouveau contexte. Andy au bar. Ok. Elle a fait un rire de femme pirate et m'a repoussé à l'intérieur. « Je viens d'avoir le rencard le plus formidablement atroce de ma vie. Faut que tu boives un verre avec moi. » Des flocons de neige s'accumulaient dans les vagues sombres de ses cheveux. Sa douce constellation de taches de rousseur brillait. Ses joues étaient roses vifs, comme si quelqu'un lui avait administré une paire de claques. Elle a une voix superbe, une voix de petit caneton qui paraît au premier abord incroyablement touchante et se révèle totalement sexy. « S'il te plaît, Nick, faut que je chasse le goût de ce rancard pourri de ma bouche. »